Grand 2, la crise du régime de croissance. Alors là, j'en ai fini avec, j'étais un peu trop long sur ce que je voulais à peine indiquer. Bon, la crise du régime de croissance, on peut déjà envisager, quand on explique cela, une première mutation ou transition paradigmatique qui avait été celle du passage du régime fordiste au régime de croissance financiarisé entre 1975 et 1985. À partir du début des années 80, on est rentré dans un autre régime de croissance. Et l'idée générale est que ce nouveau régime de croissance, entre guillemets, nouveau, puisqu'il se développe dans les années 80, n'est pas viable parce qu'il lui manque un mode de régulation qui soit efficient. Les marchés sont instables et la régulation inintentionnelle par le marché ne fonctionne pas ou fonctionne mal. Et par conséquent, on peut considérer que de crise en crise, donc de crise en crise, ce système fonctionne avec chaque fois une masse de liquidités qui est rejetée sur les marchés financiers par les autorités monétaires et financières, les banques centrales, etc. Donc, c'est une expression de Patrick Hertus qui parlait déjà de la Ponzi finance. Vous connaissez Ponzi ? Oui, bien sûr, ou pas ? Pas du tout. Eh bien, ce monsieur est un initiateur dont monsieur Madoff s'est inspiré. Ponzi faisait ça en petit, et c'est simplement ce qu'on appelle une chaîne, justement, c'est-à-dire que il avait trouvé l'idée simple, d'une simplicité telle que personne ne le repère au départ, tellement c'est stupide, ce qui ne marche jamais jusqu'au bout, par définition, comme toutes les chaînes. Vous savez, les chaînes, vous savez ce que c'est, les chaînes, hein, c'est que envoyez-moi 4 cartes postales et envoyez 4 cartes postales, etc. Vous pouvez le faire avec 10 euros et à la fin, vous serez milliardaire. Bon, ça peut marcher au début, ça ne marche pas à la fin. Donc là, il s'agit simplement de rembourser, de payer les intérêts des gens qui vous ont prêté avec les prêts que vous font leurs successeurs. Donc c'est très simple. Ponzi l'a fait en petit, il est tombé, et Madoff l'a fait en grand. Mais là, ce qui est intéressant dans ce que disait Patrick Hertus, c'est que tout le système fonctionnait comme un système Ponzi. Comme un système Ponzi, en cela qu'il est chaque fois sauvé par une inondation de liquidités provoquée par les banques centrales qui reprécipite une crise. Et ainsi, de crise en crise, on se retrouve aujourd'hui dans une situation, ou hier, dans une situation d'éclatement de bulle, et peut-être aujourd'hui ou demain, de recréation d'une nouvelle bulle. Mais derrière cela, donc les crises réelles, alors c'est un point qui était intéressant, c'est qu'on a le diagnostic du NBER, National Bureau of Economic Research, qui explique que la récession a commencé en décembre 2007, donc avant l'éclatement de la bulle financière, mais quand même après les difficultés immobilières. Alors, c'est un indice comme quoi il y aurait eu des difficultés, entre guillemets, réelles, avant même que n'éclate la crise financière. Toujours est-il que ça pourrait rendre compte, en tout cas, de la rapidité avec laquelle on est passé d'une crise immobilière et financière à une crise réelle avec effondrement de la demande de consommation, de la demande d'investissement, donc de la demande globale en général. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé dans une crise massive de la demande. Donc c'est ça qui nous intéresse. On assisterait à une crise de la demande globale, crise keynésienne, ou crise de réalisation, comme on dit aussi, qui est couplée avec une crise de suraccumulation. Alors, voyons ceci d'un peu plus près. La crise de la demande. Alors, l'idée générale, c'est qu'on a une crise de la demande sous-jacente qui a été très largement masquée par un certain nombre de phénomènes et principalement l'endettement. Ça, c'est la thèse générale. Je répète, une crise sous-jacente de la demande qui a été longtemps masquée ou compensée, si vous préférez, par toute une série de phénomènes, le plus important étant évidemment le surendettement massif. Alors, là, c'est les rappels théoriques, la crise de la demande globale, la faiblesse de la consommation sous-jacente, avec un rappel d'histoire de la pensée qui est l'analyse de Hobson, qui est tout à fait géniale par ailleurs, dont Keynes a dit toute l'importance, pas seulement Keynes, bien sûr. Donc, dans deux endroits qu'on peut regarder, dans les pays développés à partir des années 90, c'est la stagnation des salaires réels et les inégalités croissantes, sur lesquelles on reviendra. Et pour les pays émergents, qui est l'autre paquet, en quelque sorte, à considérer, une orientation exportatrice systématique, en particulier de la Chine, évidemment, d'où le blocage des niveaux de rémunération et du pouvoir d'achat de l'ensemble des ménages. Donc, disparition, en quelque sorte, de la base de consommation. Deuxième type de thèse, c'est l'excédent d'épargne. Alors, l'excédent d'épargne, c'est la thèse qui avait été soutenue par Ben Bernanke lui-même, qui est donc le patron du Federal Reserve System, qui est un très intéressant d'un point de vue théorique, qui est le spécialiste de la crise de 1929 et qui avait diagnostiqué il y a déjà quelques années un excès d'épargne à l'échelle mondiale. L'épargne étant définie, il faut faire toujours très attention à la façon dont ils définissent les choses, et en particulier l'épargne, par le revenu non consommé, de façon tout à fait keynésienne. Toute la partie non consommée du revenu étant définie comme épargne, il a analysé ses taux d'épargne et comparé au taux d'investissement et vu qu'à l'échelle globale, le taux d'investissement était trop faible. Pourquoi ? Essentiellement du fait des pays émergents et des pays producteurs de pétrole ou d'autres matières premières qui se sont trouvés avec des excédents commerciaux tout à fait considérables, lesquels étaient replacés dans les pays en développement et n'étaient pas consommés. Excès d'épargne. Voilà donc la thèse. Donc la Chine en particulier aurait une épargne, un taux d'épargne défini, comme je viens de le dire, de plus de 50% du PIB, ce qui est tout à fait considérable. Malgré leur taux d'investissement très élevé, ils ont cet excès d'épargne. D'où, enfin, petit c, l'effondrement final de la demande d'investissement. Évidemment, quand c'est ce qu'on appelle, c'est la théorie très traditionnelle de l'accélérateur. Quand la base de consommation ne croît plus, stagne, voire s'effondre, à ce moment-là, il n'y a plus de base pour une demande d'investissement à l'échelle nationale ou à l'échelle mondiale. Parce que les entrepreneurs, ça il faut bien le comprendre, ils investissent quand ils ont des anticipations de profits suffisantes. Or, leurs anticipations de profits, elles sont construites sur quoi ? Elles sont construites sur leurs anticipations sur la demande de consommation qu'eux-mêmes observent. Et ils n'investissent, ils n'achètent des machines que dans la mesure où ils anticipent la possibilité de vendre des produits en quantité supplémentaire. Quand la base de consommation diminue, la demande d'investissement finit par diminuer. En plus, théorie classique de l'accélérateur, l'amplitude des variations de l'investissement est infiniment plus grande, considérablement plus importante que l'ampleur des variations de la consommation. Donc, voilà les bases. Bon, regardez, très intéressant graphique, l'évolution du salaire réel, déflaté par le CPI, c'est-à-dire l'indice des prix de consommation. Consumer Price Index. Donc aussi le taux de croissance annuel en pourcentage. Vous avez trois zones. Bon, États-Unis. Donc on s'aperçoit que depuis 2002, on a une baisse du taux de croissance. Hein, attention, je suis obligé de préciser parce qu'il ne faut quand même pas tomber dans des. Mais on a quand même des taux de croissance négatifs pour les salaires réels qui sont assez impressionnants aux États-Unis. Pour la zone euro, également pendant toute une période entre 2004 et 2006, et au Royaume-Uni également, comme vous le voyez. Maintenant, le point grand B me fait aborder directement la question des inégalités, la sous-consommation liée à la question des inégalités. Je le note en passant, c'était bel et bien la thèse d'Hobson. sur ce qui se passait au cours de la fin du 19e siècle, ce qui s'était passé au cours de la fin du 19e siècle, avec qui était une période d'inégalité considérable et de croissance de ces inégalités. D'ailleurs, c'est très intéressant de repérer que les phases de croissance des inégalités, elles aussi, peuvent être mises en relation avec l'émergence de nouveaux paradigmes productifs. En général, lors de l'émergence d'un nouveau paradigme productif, il y a explosion des inégalités. Bon, j'ai mis quelques références parce que ce sera intéressant pour vous. Le livre de Mistral et Salzman, qui est très bien, mais qui est déjà un peu ancien. Les grands, c'est Piketty et Saez, qui ont été les seuls à très rapidement étudier les inégalités en prenant en compte les très hauts revenus. Et c'était un véritable bouleversement, parce que jusqu'ici, personne ne s'intéressait finalement à ces très hauts revenus. Donc il y a donc deux trucs de Piketty, entre autres le petit livre que tout le monde doit avoir sur l'économie des inégalités, qu'il a remis à jour récemment. Et puis il y a des articles récents, tout récents, de Madame Solar, sur les très hauts revenus également. Bon, je passe. La France. Alors, la France, simplement des données pour voir à quel point on est rentré dans une période qui est tout à fait différente de ce qu'on avait connu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, si on prend l'évolution, d'abord le rapport interdécile. Bon, D9 sur D1. Alors, le rapport interdécile. Bon, vous savez ce que c'est qu'un décile. Merci. Le rapport interdécile est un peu particulier parce que on prend le plus bas des plus riches, hein, le revenu le plus bas des plus riches, des 10% les plus riches, et le revenu le plus haut des plus pauvres. Et c'est ça le calcul de D9 sur D1. Ça va apparaître, ça, mes petits gestes. On va apparaître sur l'écran, tant pis. D9 sur D1, c'est ça. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on considère souvent que c'est un indice. Il n'a pas bougé. Bon, il n'a pas bougé depuis une dizaine d'années. On est autour de 3,4 ou, selon les calculs, 3,1. Mais pour avoir un chiffre, en 1970, on avait une inégalité plus grande à ce niveau-là, calculée comme ça. Une inégalité plus grande puisqu'on était à presque 5. Et si vous remontiez avant la guerre, vous auriez des chiffres encore beaucoup plus importants. En revanche, si nous prenons le pouvoir d'achat moyen entre les déciles, entre le premier et le dernier décile, c'est plus du tout pareil. Il y a une augmentation entre 1998 et 2008, on va de 6 à 6,7. Vous me direz, c'est pas énorme. Oui, c'est pas énorme, parce que si on se contente de prendre l'interdécile, ou même les moyennes d'un décile en bas au décile supérieur, c'est pas comme ça qu'on repère l'inégalité. L'inégalité, vous allez le voir, on la repère à condition d'aller regarder les hauts revenus, de façon beaucoup plus infiniment plus pointue. Il faut quand même regarder la pauvreté, et depuis les pauvres jusque les riches, pour avoir l'évolution française. On peut la décrire de la façon suivante. Les plus pauvres, c'est-à-dire ceux qui ont le au-dessous de 945 euros, puisque c'est le niveau qui est considéré comme le seuil de pauvreté. Donc ceux qui sont au-dessous de 945 euros, bon, les précaires, les fins de droit, etc., bon, ils décrochent vers le bas. C'est-à-dire leur taux de croissance est très modeste. Bon. Inversement, le décile supérieur augmente très rapidement. Et si vous prenez maintenant les déciles moyens, c'est-à-dire à partir vers le bas du troisième décile et jusqu'à l'avant-dernier, vous voyez que leur évolution a été plus faible. C'est-à-dire qu'en France, les choses se présentent de la façon suivante. Les plus pauvres, premier décile en bas, subissent une baisse de leur pouvoir d'achat. Le deuxième décile, toujours en partant du bas, Eh bien, celui-ci a une évolution positive relativement élevée, dans la mesure où ils sont soutenus par l'existence du SMIC. Donc, ça, c'est le deuxième décile, et le troisième également, puisqu'on reste encore à un niveau très voisin du SMIC. En revanche, à l'opposé, les 10% les plus riches, qui ont le revenu le plus élevé, ont une augmentation très rapide. Et les classes moyennes, aussi bien les classes moyennes basses que les classes moyennes relativement élevées, au contraire, ont une évolution très modeste de leurs revenus, voire quasi nulle. Ça explique en partie ce qu'on appelle la crise des classes moyennes. Ça s'explique comment ? Eh bien, en grande partie parce qu'en bas, le SMIC et les transferts sociaux ont joué, qu'en haut, il y a eu un enrichissement considérable, et qu'au milieu, même, ça n'a pas évolué beaucoup. Bon, alors, quelques données. La part dans le revenu total des revenus des 10% les plus riches, qui avait énormément baissé dans les années 1940, on était passé pendant la guerre et juste après la guerre de 45% à 30%, évolue autour de 33% aujourd'hui, 33-34%, etc. En revanche, qu'est-ce qui s'est passé entre 1998 et 2006 ? Eh bien, toute une série d'évolutions très intéressantes. Le revenu moyen des 10% les plus riches est accru, 8,7, mais celui des 1% les plus riches, ça commence à devenir intéressant, de 19%. Et si on prend les 0,01% les plus riches, 42%. Vous voyez la déformation, qu'elle est déjà tout à fait spectaculaire. Maintenant, si vous regardez du côté des pauvres, ou des relativement pauvres, le pouvoir d'achat, après ce qu'on appelle les dépenses contraintes, c'est-à-dire le logement, les dépenses d'énergie pour l'essence, etc., etc., si on regarde ce pouvoir d'achat des deux déciles du bas, on voit qu'il a été divisé par deux, pouvoir d'achat, après les dépenses supposées contraintes. On voit qu'il aurait été, ou qu'il a été divisé par deux entre 2000 et 2006. À cause des dépenses de logement et des dépenses d'énergie. Donc là, c'est le sentiment de paupérisation. Enfin, évidemment, hausse du chômage, des fins de droit, etc. Alors là, rapidement, je regarde ce petit graphique. Là, ce qui est intéressant, c'est... On voit à peu près l'évolution entre 1998 et 2008 pour les plus pauvres, ceux qui sont, vous voyez, dans une situation de pauvreté au sens strict, puis après ceux-là qui augmentent relativement vite, dans la mesure où ils sont portés par le SMIC, et puis pour les 10% les plus riches, une augmentation qui est inconsidérable. En revanche, cette zone a une augmentation relativement faible. Je vous fais remarquer qu'il s'agit du niveau de vie moyen annuel par tranche. C'est important et que c'est après impôts et prestations sociales. Les États-Unis. Alors, les États-Unis, les 10% au-dessus, 48% de la somme des revenus. La moitié de la population a revenu faible, donc les 50% n'ont que 12,6% de la somme des revenus. Comparaison, ils avaient quand même 16% en 1977. Donc ils ont gros, mais ils ont perdu beaucoup. Maintenant, revenons sur nos petits calculs plus intéressants. Les 1% les plus riches totalisent 20% des revenus encore, contre 14% en 1980. Les 1 pour 1000 les plus riches, 1 pour 1000 ont encore 10% de la somme des revenus, et les 1 pour 10 000 ont encore 5%. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est quand même très impressionnant quand on y réfléchit. Mais c'est plus intéressant de voir encore l'évolution. Il y a 80, depuis 1980, ça fait 30 ans, il y a une stagnation de 80% de la population américaine en revenus réels. Ça, c'est d'après Jacques Mistral. Les 5% de familles, 5% de familles les plus riches ont concentré toute la croissance des revenus. En ce sens que toute la création de richesse a été pratiquement absorbée par les 5% les plus riches. Les 1% les plus riches ont doublé et les 0,5 triplé. Le 1 pour 1000 a multiplié par 5 ses revenus. Pas mal. Donc, évidemment, la base réelle pour une consommation n'existe plus aux États-Unis. La base réelle pour une consommation n'existe plus aux États-Unis. Bon, on peut dire qu'à partir de 2005, le pouvoir d'achat d'une famille américaine baisse, donc 2 ans avant la crise. Vous voyez, le problème réel de la faiblesse de la puissance de consommation des ménages américains, c'est déjà 2005. Bon, comment se fait-il, en quelque sorte, que ça a tenu, quand même, et que la consommation a continué à augmenter, alors que le revenu réel de ces ménages se cassait la figure. Alors, quelques graphiques pour vérifier ça. Regardez la part des salaires dans le PIB au Japon et en Europe depuis 1980, donc depuis les 30 ans dont nous parlions. Donc, on voit très clairement une chute qui est quand même assez considérable, puisqu'on est près de 75%, aussi bien en Europe qu'au Japon, un peu plus élevé, etc., et que maintenant, le Japon, on est à moins de 60%. Même chose à peu près pour l'Europe. Pour les États-Unis, la croissance des inégalités de revenus disponibles, petite parenthèse, rien n'est plus compliqué que ces questions de répartition et de statistiques sur la répartition. Et si vous avez à passer des concours sur ces questions, regardez avec précision dans les statistiques, comment elles sont construites et de quoi il s'agit, revenus disponibles ou revenus nets après impôts et transferts, etc. Parce que les différences sont gigantesques, évidemment, s'il s'agit du pouvoir d'achat, du salaire à plein temps, très complexe, c'est très complexe. Mais il faut vraiment y jeter un œil parce que les examinateurs risquent d'être très attentifs à ce genre de choses. Donc là, il s'agit des revenus disponibles. C'est divisé en 5 fractions. Donc en bas, 6%, en haut, pour les 1%, hein, qui sont donc en dehors du top 5 qu'ils ont mis à part, 176%. C'est le revenu réel after tax income, donc revenu net. Donc vous voyez, spectaculaire évolution. Bon, maintenant, évolution de l'indice des inégalités. Vous connaissez l'indice de Gini. Bien sûr. Oui ou non? Oui. Bon, donc cet indice de Gini et la construction de l'indice de Gini, on ne sait jamais. Bon, regardez l'évolution, elle est tout à fait spectaculaire pour les États-Unis. Donc c'est du long terme, hein. Depuis les années 30, on a quand même une variation vers l'égalité qui est absolument spectaculaire, qui est vraiment spectaculaire entre la crise de 1929 et 1970, quoi, en gros, qui correspond littéralement à un paradigme productif fordiste très caractéristique. Il y a vraiment une double rupture. C'est quelque chose qui est stupéfiant, parce qu'on voit que jusqu'en 1929, il y a une croissance des inégalités, et on voit que c'est l'exacerbation de cette croissance des inégalités qui a provoqué, ou qui a été un des éléments majeurs de l'explication de la crise de 1929. Hobson avait raison, regardez, ou Keynes. C'est spectaculaire. Alors, effectivement, on va avoir une diminution considérable de l'inégalité, et puis une augmentation, on voit bien détaillé sur ce graphe, la période correspondant aux années Reagan, Bush, c'est-à-dire les années 80-95, avec cette croissance des inégalités qui ne nous a pas permis encore de revenir au niveau de 1930. Maintenant, si on prend le Royaume-Uni, bon, là c'est encore plus spectaculaire en Angleterre. Pourquoi ? Parce qu'on voit la période de la Dame de Fer à un point, je ne pensais pas que c'était visible à ce point. Donc ces années 80 jusqu'en 90, c'est faramineux. Bon, ils sont passés d'un indice de Gini autour de 20, à 23 à presque 35. Ça a complètement bouleversé. Bon, plus amusant. Plus amusant encore et plus spectaculaire. Mais ce sont des éléments qui expliquent très largement la montée de mécontentements, c'est le moins qu'on puisse dire, sociaux aux États-Unis, qui prennent des formes très diverses, qui ne sont pas toujours très comprises. Mais la croissance des inégalités, il s'agit, est tellement spectaculaire. Ça, c'est l'évolution de la part. Du décile départ du décile supérieur, hein, des 10%. L'évolution des 10%. Alors, vous avez en rouge, dans ces 10%, les 1%, donc entre 99, P99, P100. Donc, c'est les 1%. Puis, on a entre 95 et 99, les 5%. Et puis, entre 90 et 95, les 5% du bas des 10%. C'est clair ? Bon, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que si les 10% ont accru, comme nous l'avons vu, considérablement leur niveau de vie et leur revenu, en fait, c'est les 1% qui augmentent. C'est dans ces 10%. Presque tout est avalé par les 1%, puisqu'ils sont passés, regardez, d'à peu près 10% du revenu total américain à peu près 20%. Ça, c'est la décomposition des 10% supérieurs. Et bien maintenant, regardez la décomposition du 1% supérieur. Hein, du 1%. C'est encore plus spectaculaire, parce que là, on est entre les 99, 9 et les 100. C'est-à-dire, c'est pas les 10%, c'est plus, pas les 1%, c'est les 1 pour 1000, en rouge. Les 1 pour 1000, ils se retrouvent à avoir eux aussi connu une évolution beaucoup plus importante que l'ensemble du centile. Et ils avalent maintenant, ils avaient à peu près 2% de l'ensemble des revenus totaux américains, et ils sont à peu près à 10%. Donc, c'est à peu près 70% de la croissance de revenus aux États-Unis qui est absorbée par cette toute petite catégorie. Alors, cette crise de la demande, elle a été compensée. Ce qui explique qu'elle ait mis du temps à apparaître, en quelque sorte. Elle a été compensée. Pourquoi a-t-elle été compensée? Comment a-t-elle été compensée, disons, au cours des années 2000 pour le dire autrement, comment cette crise du soubassement de la demande globale a-t-elle été repoussée dans le temps? Quelles sont les raisons pour lesquelles elle n'est pas apparue plus tôt? Du fait qu'on a vu, depuis 1980, il y a stagnation pour 80% des Américains. Bon, les choses sont décomposables de la façon suivante. Premièrement, ce que j'ai appelé les béquilles de la demande globale. Alors, j'en ai compté 6. D'abord, les innovations qui ont tiré aussi bien l'investissement que la consommation. Vous n'avez qu'à penser, je ne sais pas moi, au téléphone portable, à l'informatique, etc. C'est vrai que ça a considérablement tiré la demande. C'est un point très important. Donc les transformations, les innovations au niveau de l'offre ont joué. Bon, en tout cas, jusqu'à la crise de 2001-2002, en général, et puis ça a rebondi à partir de 2003-2004 jusqu'à nous. C'est un point très important. Deuxième point. Contrairement à ce que pense la totalité ou presque des ménages français, il y a eu une stabilité des prix, aussi bien en France que dans des pays comme les États-Unis, même si, évidemment, tout dépend de la façon dont on calcule les indices, même si les prix alimentaires ont beaucoup augmenté, mais cette stabilité, elle est due très largement aux importations très bon marché de toute une série de produits divers, venant des pays émergents et en particulier de la Chine. Donc cette baisse d'une fraction des prix ou cette non-augmentation des prix globalement explique relativement le soutien de la demande. Petit c, les politiques de facilité monétaire qui ont été inaugurées en particulier par Greenspan à partir de 2001-2002 et qui ont encouragé l'endettement des entreprises qui a été à la source de la croissance de l'investissement et l'endettement des ménages. D'où, petit d, création d'une bulle immobilière. Et la bulle immobilière a eu des effets richesse absolument considérables, particulièrement, on le sait, aux États-Unis. Alors sur l'importance de ces effets richesse, il y a beaucoup de discussions, évidemment, mais indéniablement, à partir du moment où, d'une part, l'impression d'une plus grande richesse est dans la tête des ménages, puisqu'ils sont à la tête de maisons, d'appartements qui ont une assez grande valeur. Et puis surtout, ils ont la possibilité, lorsqu'ils vendent un actif, de récupérer une impression d'enrichissement massif. Donc, importance de ces effets richesse. Petite à ne pas négliger, le boom des dépenses des plus riches. C'est un point qui mériterait d'être étudié, parce que dans les analyses du siècle précédent, ou même des deux siècles précédents, 19e et 20e siècle, les riches avaient des propensions à consommer relativement faibles par rapport aux pauvres. Or, on a assisté dans les dernières décennies à une explosion des dépenses des riches. Vous savez, c'est, bon, pour simplifier, c'est la dimension bling-bling de nos économies qui font qu'il y a eu une explosion de dépenses somptuaires comme on en a rarement connu. Alors, petit f, évidemment, ça a tenu parce que le taux d'épargne aux États-Unis est devenu égal à pratiquement zéro. Et donc, ça a évité très largement les conséquences de l'engorgement du saving glut dont on parlait avec Bernanke. Bon, deuxièmement, le rôle de l'endettement, évidemment. Le rôle de l'endettement a été massif. C'est l'endettement qui explique la non-réalisation de la crise de la demande globale. Alors, je note trois points là. Ça a été une nécessité pour les ménages. Les ménages qui étaient surtout les classes moyennes, les classes les plus pauvres, qui étaient littéralement prises à la gorge, en particulier avec l'augmentation des dépenses contraintes, ils se sont sauvés par l'endettement. Même chose pour les entreprises qui n'ont tenu leur investissement que grâce à l'endettement ou au surendettement. Mais deuxièmement, ça a été une opportunité par les banques. Si vous voulez, la croissance de l'endettement, elle vient des deux côtés. Elle est poussée par la demande et activée par l'offre de crédit. Les banques ont joué un rôle important. Tous les profits des banques ont été liés à ce jeu sur l'endettement et elles ont poussé les particuliers, les ménages, comme les entreprises, à des taux d'endettement toujours plus élevés, tout ça pour acheter des appartements, donc des effets de levier très élevés pour des appartements ou pour des titres, bien entendu. Et ça a été enfin une facilité pour l'État, puisqu'on a laissé courir des taux d'intérêt très faibles, et donc la Fed a joué à fond l'endettement. Bon, troisièmement, la crise elle-même, 2007-2008. La crise elle-même, bon, lorsque la crise financière a fait s'effondrer l'endettement, parce qu'au moment de la crise 2007-2008, il faut bien comprendre qu'on assiste à l'effondrement de l'endettement. Tout le monde rembourse. Tout le monde rembourse. C'est la course au cash dont je parlais. Les ménages et les entreprises, tout le monde cherche à se désendetter, évidemment. Et la disparition de l'économie d'endettement privé est la cause fondamentale, par ce qu'on appelle la déflation, est la cause fondamentale de l'enfoncement dans la crise de demande. Donc, brutalement, on retire, si vous voulez, les béquilles de l'endettement. Et alors, qu'est-ce qui reste quand on retire les béquilles de l'endettement? Ben, il reste la faiblesse de la demande globale liée à une consommation très faible. Et ça, c'est très très important pour comprendre la situation qui explique la profondeur de la crise de la demande globale. D'ailleurs, dans la crise, alors ça c'est autre chose, avec la crise elle-même, toutes les composantes de la demande s'effondrent, avec une rapidité qui a d'ailleurs été tout à fait spectaculaire. Alors, grâce, à cause du chômage, bien entendu, à cause des faillites, à cause de la baisse des revenus, à cause du désendettement massif qui a joué un rôle très important. On a même une augmentation du taux d'épargne aux États-Unis qui a été tout à fait spectaculaire, puisque l'épargne avait pratiquement disparu. Mais par peur du chômage, le taux d'épargne augmente. Et on assiste aussi aux États-Unis et dans le reste du monde à des effets richesse inversés. Quand la valeur de vos biens diminue, vous vous sentez plus pauvre, et vous l'êtes d'ailleurs, concrètement. Et par conséquent, vous êtes obligé d'augmenter vos revenus. D'ailleurs, voilà un graphique qui montre l'évolution du taux d'épargne net mensuel des ménages aux États-Unis. Bon, tombé à zéro, hein, on peut le dire, et il est remonté considérablement, puisqu'on est à un taux qui n'est pas comparable encore à celui de pays même comme la France, pour ne pas parler du Japon ou encore plus de la Chine, mais qui est quand même à une croissance tout à fait spectaculaire, avec le risque déflationniste qui lui est lié. D'ailleurs, voilà l'évolution de la demande des ménages en volume. Taux de croissance. Bon, on a de nouveau États-Unis, zone euro, etc. Vous voyez pour les États-Unis la chute de la demande des ménages, qu'on est arrivé au milieu 2009, on était arrivé à moins 3, moins 4. Mais si on regarde le Royaume-Uni, c'est encore beaucoup plus spectaculaire. C'est eux qui ont subi la crise de demande de consommation la plus forte. Maintenant, on peut voir aussi l'évolution des crédits aux entreprises, là aussi en taux de croissance. Et regardez la première période d'augmentation très, très rapide, et puis une deuxième période avec l'effondrement et la vitesse avec laquelle l'effondrement se produit. Même chose avec les crédits bancaires aux ménages. On assiste effectivement à une chute qui est tout à fait vertigineuse. Bon, là, c'est ce point D. C'est un point qui serait très intéressant à étudier. C'était une thèse qui avait été celle de Keynes et celle de Hansen dans les années 30 sur la stagnation séculaire. Et la question qui est posée, c'est est-ce que, finalement, il n'y a pas un risque de stagnation séculaire ? Attention, il y a plusieurs façons d'envisager théoriquement cette question. Soit on se place du côté du côté de l'offre, soit on se place du côté de la demande. Ça, cette thèse, elle est exclusivement du côté de la demande. On est quand même toujours dans la crise de la demande. Il faut différencier cette thèse de celle qui met l'accent sur la croissance potentielle ou qui, dans les modèles néoclassiques à la Solow, montre que le taux de croissance d'équilibre se rapproche de petit n, qui est le taux dit naturel, qui est le taux de croissance de la population, et que si le taux de croissance de la population est nul ou quasi nul, le taux d'équilibre, le taux de croissance d'équilibre, tendra à tomber à zéro également. Ça, c'est du côté de l'offre, et c'est lié à quoi ? Et ça, c'est vraiment de la vérité de Manuel, c'est lié au fait que la productivité du capital tend à diminuer avec l'augmentation du capital par tête. Donc c'est le graphique le plus classique où on met en abscisse petit k égale k sur l, en ordonnée la productivité du capital, et on voit que la productivité du capital, évidemment, elle tend à ne plus augmenter, puis à diminuer avec l'augmentation du capital par tête. C'est pas de ça dont il s'agit. Ici, il s'agit d'une idée de Hansen et de Keynes, d'abord de Keynes puis de Hansen, selon laquelle les composantes de la demande sur la très longue période séculaire même, risque d'être profondément atteinte. D'abord, du fait, pour Hansen à l'époque, que la frontier avait atteint aux États-Unis, qui avait expliqué une partie de la croissance américaine au XIXe siècle, avait disparu, mais surtout que la croissance démographique ne portait plus la croissance de la demande, et que plus il y a d'inégalités, plus le risque de soutenir la demande globale dans le très long terme tend à diminuer également. Donc le risque, avec la faiblesse de la natalité et finalement de la croissance démographique, la faiblesse des innovations qui soient capital using et leur remplacement par des innovations qui sont au contraire capital saving, et puis la montée des inégalités pourrait provoquer une stagnation de longue durée. Alors, la deuxième section, c'est la crise de suraccumulation du capital. Alors, cette crise de suraccumulation du capital, j'ai mis surtout en Chine. Donc, un petit rappel théorique sur ce que c'est une crise de suraccumulation du capital. Il y en a deux sortes, entre guillemets, ou théoriquement du moins. Il y a la suraccumulation réelle, celle de la théorie classique de Ricardo, et bien sûr de la théorie marxienne de la baisse tendancielle du taux de profit, et puis qui est aussi celle des néoclassiques dont je viens de parler, c'est-à-dire la tendance à la baisse de la productivité du capital lorsqu'il y a une augmentation du capital par tête. Ça, c'est la vraie suraccumulation du capital réel, c'est-à-dire finalement ce qui est en relation avec la réduction de la productivité. Et puis, il y a aussi l'idée qu'on peut arriver à un surinvestissement par rapport aux capacités de consommer, ce qui est un peu différent. Surinvestissement par rapport aux capacités de consommer, donc en relation avec la demande. Ce que je veux dire ici, c'est qu'on a un surinvestissement qui a été lui aussi longtemps compensé. Alors, ce surinvestissement, on peut le prendre d'abord en regardant de façon globale la crise de 2001 et la crise de 2008-2009, c'est-à-dire celle qui s'est passée il y a 10 ans et celle qui s'est développée et qui continue peut-être de se développer encore aujourd'hui, en considérant que l'un dans l'autre, c'est une crise de surinvestissement qui a été liée à l'impact des nouvelles technologies et à la croissance des investissements dans ces nouvelles technologies au cours des années 2000. Et c'est ça qui aurait expliqué la crise de 2000-2001, qui aurait été artificiellement compensée par une politique très généreuse au point de vue création de liquidités, mais dont on aurait seulement les conséquences, en quelque sorte, dans la période 2008-2009. Alors, il faut expliquer cette crise de surinvestissement ou de suraccumulation en mettant l'accent sur les taux d'intérêt très faibles de la période 2001-2010. À partir du moment où les taux d'intérêt sont très faibles, il y a une tendance au surinvestissement, dans la mesure où l'investissement, il est très largement déterminé par le niveau du taux d'intérêt. Donc, on va voir comment on assiste à ce surinvestissement pendant toutes ces années-là. Mais surtout peut-être, et c'est le point 3, cette suraccumulation du capital, elle a surtout été le fait de l'économie émergente chinoise. C'est très important parce que depuis 2000, avec le retournement de la politique chinoise vers une stratégie du tout exportation, on peut dire que les grands projets d'investissement massif ont été réalisés sans aucune prise en compte des taux de rentabilité. En d'autres termes, en faisant le pari que tout marchait, en faisant le pari que quel que soit l'investissement, le volume d'investissement qui était mis en œuvre, la demande rattraperait cela. Quelle demande ? Évidemment, pas la demande de consommation des ménages chinois, mais la demande mondiale. Donc, le très fort taux d'investissement en Chine a provoqué ce phénomène à l'échelle mondiale. Pourquoi à l'échelle mondiale ? Eh bien, tout simplement parce que les conséquences de la suraccumulation du capital en Chine ont été exportées vers les États-Unis et vers l'Europe par l'intermédiaire d'une monnaie sous-évaluée et par conséquent d'une balance commerciale excédentaire. Je pense que nous retrouvons là, c'est très intéressant, les vieilles théories de l'impérialisme, qui étaient celles de Lénine, Rosa Luxembourg, Hobson justement, comme quoi quand on est dans une situation de suraccumulation, il est possible d'exporter cette crise de surutilisation, soit par des exportations de capitaux, soit par des exportations de marchandises. Et la Chine l'a fait surtout par les exportations de marchandises, une forme d'impérialisme, dirait-on, pour parler comme Rosa Luxembourg à la fin du XIXe siècle. Alors regardez l'évolution de l'investissement productif en volume. Dans tous les pays, on assiste à une augmentation tout à fait spectaculaire et puis à une chute brutale avec la crise de 2009. Bon, maintenant, très intéressant sur la Chine elle-même, pour repérer l'importance relative de l'investissement depuis que la Chine a pris la décision de jouer le tout exportation et de freiner le développement du marché intérieur. Pour la première fois dans l'histoire du monde, à cette échelle, on voit un pays immense, avec ses 1,4 milliard d'habitants à peu près, qui joue le rôle d'un développement par l'exportation. C'est inouï. Inouï, ça ne s'est jamais produit dans l'histoire. Jamais, à cette échelle. Jusqu'à présent, ce type de développement était le type de développement des relativement petits pays. Mais lors de la révolution industrielle numéro 1, l'Angleterre a joué sur son marché intérieur plus que sur le marché extérieur. Lors de la deuxième révolution industrielle, l'Allemagne, les États-Unis qui se sont développés à ce moment-là, à la fin du 19e siècle, ont joué davantage sur leur marché extérieur que sur leur marché intérieur que sur leur marché extérieur, même si le marché extérieur joue un rôle très très important. Bon, même le Japon, qui est l'exemple même d'un développement au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, qui jouait massivement sur les exportations, a développé encore plus rapidement son marché intérieur. Ce n'est pas le cas de la Chine. Ce phénomène tout à fait inouï. Ils ont appliqué les méthodes qui étaient les méthodes, je ne sais pas moi, de Taïwan ou les méthodes de la Corée du Sud, mais appliquées à un immense empire, avec les résultats qu'on voit. Mais on voit aussi ce que ça a été. Regardez la part de consommation en Chine. En 1998, la part, hein, pas une baisse de la consommation, on ne tombait pas dans l'erreur, la naïveté, on était à pas loin de 50% dans le PIB qui était consommé. Et on est à 35%. Et ça a été compensé comment ? Ben très largement par l'investissement. Vous me direz, il manque quelque chose ? Oui, il manque deux choses. Il manque les exportations, évidemment, qui sont la troisième catégorie, qui font la différence et qui ont beaucoup augmenté. Puis il manque les dépenses de l'État. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que la part de la consommation a beaucoup diminué. La part au bénéfice de l'investissement. Bon, alors, là aussi, on assiste à une suraccumulation, mais qui a été très longtemps compensée. Quand on dit suraccumulation du capital, pensez à la thèse de Ricardo, ou pensez à la thèse de Marx, celle de Ricardo, célèbre, avec les rendements décroissants de l'agriculture. Bon, qu'est-ce qui se passe pour Ricardo ? Le taux de profit baisse. Alors, si vous, explique Ricardo, si vous mettez des doses successives de capital sur une terre de dimension donnée, les rendements de chaque dose nouvelle de capital sont chaque fois plus faibles. Et comme les rendements de chaque dose nouvelle de capital sont plus faibles, on dirait que la productivité marginale du capital diminue, ce que lui ne dit pas, évidemment, le taux de profit diminue. Bon, la thèse de Ricardo. Même chose avec Marx, pas tout à fait la même, puisqu'il ne s'intéresse pas directement à la question des rendements décroissants de l'agriculture, mais de façon plus générale, pour Marx, à mesure qu'il y a accumulation du capital et que celle-ci se fait de plus en plus dans du capital constant plutôt que dans du capital variable, le taux de profit baisse. Et même chose avec les néoclassiques. Si vous prenez un modèle à Lasselot, vous voyez bien que quand vous augmentez les doses de capital, le rapport petit k égale k sur l augmente et la productivité du capital, elle tend à diminuer également. La question qu'on peut poser et qu'on pose à ces trois théories, et qu'ils se posent à eux-mêmes, hein, surtout Marx par exemple, c'est comment se fait-il que le taux de profit ne diminue pas régulièrement avec l'augmentation du capital ou du capital par tête. Parce que si chaque fois qu'on augmente le capital, ça fait baisser la rentabilité du capital productivité marginale décroissante. Hein. À ce moment-là, quand on augmente la masse de capital en mettant des doses successives, le taux de profit devrait diminuer régulièrement. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le taux de profit reste très élevé et tout d'un coup, il baisse brutalement dans la crise. C'est-à-dire, comment expliquer le passage d'une théorie qui explique l'abaissement régulier du taux de profit à une théorie d'une brutale chute du taux de profit? Eh bien, l'explication, elle est chez Marx et elle est visible aujourd'hui, si vous voulez, très simplement, c'est qu'il y a des contre-tendances. Alors, pour Marx, le capital met en œuvre des contre-tendances. Mais sans aller jusqu'à la mise en œuvre orchestrée par le capital des contre-tendances, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer que la crise de suraccumulation a été effectivement compensée jusqu'à la crise de 2007. En d'autres termes, alors qu'on surinvestissait, qu'il y avait suraccumulation du capital, il n'y avait pas de conséquences en termes de baisse du taux de profit parce qu'il y avait des contre-tendances. Alors, comment? D'où viennent ces contre-tendances? Ça, c'est passionnant de voir que finalement, ce qui était... Ça, c'est chez Marx, c'est assez largement chez les classiques. Ces contre-tendances, elles sont d'ailleurs pas très compliquées à trouver. Hein. Petit a, la première, c'est évidemment que les entreprises ont réagi par la baisse des coûts salariaux. Donc, face à la suraccumulation et au surinvestissement, on baisse les coûts salariaux. Donc, d'autant, on fait augmenter les taux de profit. Alors, notez en passant, c'est la dernière ligne, qu'il y a un contre-coup sur... Il y a forcément un contre-coup sur la demande globale. Puisque vous baissez les salaires, ça va expliquer la crise de demande globale. Alors, c'est un problème, ça, parce qu'au moment où les entreprises évitent la crise de suraccumulation, vous me suivez, en baissant les salaires, du même coup, elles précipitent une tendance à la crise de la demande globale. Ça, c'est seulement la première façon de compenser. Mais là, voilà. Regardez à quel point c'est stupéfiant. Depuis 1998, toujours, on voit en rouge le salaire réel, aussi bien aux États-Unis que dans la zone euro, et en grisé, la productivité par tête. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que l'écart entre les deux s'est considérablement creusé à partir de 2002-2003, essentiellement, des deux côtés, d'ailleurs. Bon, alors, la différence, c'est que dans la zone euro, on assiste avec la crise à un effondrement de la productivité, et pas aux États-Unis. Pourquoi? Ben, essentiellement parce que... Vous auriez une idée, là, ce serait une question. Pourquoi il y a cette différence entre les deux? Oui, c'est en termes d'emploi, oui. C'est parce qu'en Europe, on a réagi beaucoup plus fortement, en particulier en Allemagne, à la montée du chômage. Et par conséquent, il y a eu plus de gens qui restaient en poste, en quelque sorte, et ça a fait diminuer la productivité. Tandis qu'aux États-Unis, comme d'habitude, ils ont laissé monter, laissé monter le chômage, c'est ce qu'ils font toujours. Mais il y a eu un énorme débat. On en parlera peut-être tout à l'heure. Regardez pour le Japon, c'est absolument c'est la même évolution, mais le Japon, plus proche de l'Europe, il y a quand même une baisse. Mais on voit bien l'augmentation de l'écart entre les deux. Donc la première, c'est ça qui a permis l'augmentation la non diminution du taux de profit. Bon, alors deuxième contre-tendance, c'est évidemment que les taux d'intérêt sont très faibles. Alors, comme les entreprises payent des intérêts sur ce qu'elles empruntent, quand les taux d'intérêt sont faibles, leur taux de profit, ce qui reste, est élevé. Petit c, la spéculation, l'aventurisme, etc. Alors, ça, c'est très important. Vous vous rappelez que dans la période qui précédait la crise, non seulement les taux de profit ne baissaient pas, mais on cherchait à obtenir des taux de profit exorbitants avec des returns qui étaient, des ROE qui étaient particulièrement élevés, puisque ces retours sur fonds propres devaient être de 15%. Comment pouvait-on tenir des taux aussi élevés? Ben, c'est pas difficile, entre guillemets, pas difficile, par l'aventurisme, donc par les effets de levier fondés sur des taux d'endettement tout à fait élevés, par la concentration du capital, etc. Donc, On peut dire que la baisse du taux de profit dans les activités productives a été très largement compensée par le recours à la spéculation et à l'aventurisme, à des opérations avec des leviers de plus en plus fous. Et ceci, compensant cela, ça a permis d'atteindre des taux de profit exorbitants. Petit dé, évidemment, ça a été encouragé par les banques. Parce que prêter pour les banques, hein, mettez-vous à la place d'une banque. Il ne s'agit pas de mettre un doigt vengeur en désignant les mauvaises banques. Non, ils font leur métier. Bon, quand ils prêtaient à des activités productives ou à des ménages, ou à une entreprise, à une entreprise pour des raisons productives. Bon, ben, qu'est-ce qui ça leur rapportait de 3%. Bon, maintenant, pour la finance de marché, quand ils avaient la possibilité de jouer par la spéculation, ils avaient des taux de profit qui étaient 4 fois plus élevés. Donc, ils étaient attirés tout naturellement à faire de la finance de marché. C'était beaucoup plus rentable. Donc, leurs opérations se sont tout naturellement développées plutôt là où ça rapportait gros que ça, les opérations de marché, que là où ça rapportait très peu. Enfin, petit e, c'est ce que je disais tout à l'heure, un point qui a été très important dans la compensation de la crise de suraccumulation, étant donné qu'elle se développait particulièrement en Chine, ceux-ci ont exporté les conséquences de cette crise de suraccumulation vers le reste du monde. Un genre de, je le dis ici, un genre de beggar my neighbor policy. Vous savez ce que c'est que la beggar my neighbor policy? Bon, c'est très, très intéressant parce que c'est une vieille expression qu'on trouvait dans les années 30 et qui avait été en particulier utilisée par John Robinson. C'est un jeu qui peut se traduire en français par « passe à ton voisin ».« Passe à ton voisin ». Quoi ? Le taux de chômage. Alors, passer à son voisin le taux de chômage, comment ? Ben, par des politiques d'évaluation compétitive massive, en particulier, ou par le protectionnisme. Donc la Chine, elle a passé à son voisin la crise de suraccumulation potentielle qu'elle elle-même développait avec sa balance commerciale très massivement excédentaire, la création de réserves exorbitantes. Et voilà, les politiques.